Pierre-Marc de Biasi. Je commencerai par quelques mots d'hommage, moi aussi, à Franck-Paul Baumann, qui a d'ailleurs publié un très bel article que je vous recommande sur la désymbolisation dans Romantisme en 1985. Franck-Paul Baumann a eu un rôle important aussi dans ma formation. Il m'a beaucoup encouragée au moment où, alors pour ma part, j'étais en DEA et à un moment où j'étais l'élève de Jacques Sébachère. Donc voilà, nous partageons quelques points communs pour ce qui est de notre formation. Alors, désymbolisation, c'est un mot qui est tout à fait moderne et qui, autant que je sache, a d'ailleurs été inventé par Pierre-Marc de Biasi, même si ensuite, justement, Franck-Paul Baumann l'a repris et a publié un article donc, sur la désymbolisation en disant bien que Pierre-Marc de Biasi l'avait employé le premier dans sa thèse. Alors, le mot est moderne, mais l'idée sûrement pas, puisque les théories de la désymbolisation datent bien du XIXe siècle et que Flaubert les connaissait. Alors, je ne ferai pas toute l'histoire de la désymbolisation, puisque Franck-Paul Baumann a travaillé là-dessus. Pour ma part, je rappellerai simplement certains points qui me seront utiles, évidemment, pour l'interprétation des déclarations de Flaubert dans la correspondance ou des textes de Flaubert. Alors, je commencerai en remontant d'ailleurs un peu plus loin, un peu plus haut que Franck-Paul Baumann, pour ce qui est de l'idée de désymbolisation. Ce n'est pas Victor Cousin ni Michelet les premiers qui en ont formulé l'idée sans employer le mot. Je crois qu'il faut remonter, pour ce qui est de la France, au tout début du XIXe siècle, Madame de Staël, qui publie De l'Allemagne et qui, je pense, est probablement la première en France à défendre l'idée donc, de ce qu'on appelle aujourd'hui désymbolisation. Elle estime en effet qu'on rend un mauvais service à la religion en la mettant à part de toutes les sciences, comme si la philosophie, écrit-elle, comme si le raisonnement, enfin tout ce qui est estimé dans les affaires terrestres, ne pouvait s'appliquer à la religion. Une vénération dérisoire l'écarte la religion donc, de tous les intérêts de la vie. C'est pour ainsi dire la conduire hors du cercle de l'esprit humain à force de révérence. Et donc de son point de vue, eh bien, il faut appliquer la philosophie à la religion parce que la philosophie peut contribuer au prestige de la religion en clarifiant les idées que la religion enveloppe, on verra qu'il y a une idée d'enveloppement. Et elle écrit donc dans De l'Allemagne, la philosophie consiste à trouver l'interprétation raisonnée des vérités divines. Donc Madame de Staël va postuler justement ce que Flaubert et Pierre-Marc de Biasi l'a cité tout à l'heure, appelle le sentiment religieux. Et on trouve cette idée donc de sentiment religieux chez Madame de Staël, qu'il définit de la façon suivante. Il consiste à se mettre en harmonie avec l'ordre universel, malgré l'esprit de rébellion ou d'envahissement que l'égoïsme inspire à chacun de nous en particulier. Tous les dogmes, tous les cultes sont les formes diverses que ce sentiment religieux a revêtu selon les temps et selon les pays. Alors on voit qu'il y a un dénominateur commun des religions, quelle que soit leur forme et quelle que soit l'époque, les religions, selon Madame de Staël, règlent le rapport de l'homme à l'univers. Ce rapport de l'homme à l'univers, spontanément éprouvé dans la foi, est ensuite rationnellement abordé dans la philosophie. Proche de Madame de Staël, Benjamin Constant introduit un élément de plus dans cette première approche de la désymbolisation. C'est le temps de l'histoire. Alors Benjamin Constant publie un livre en 1825 qui s'appelle « De la religion » et il explique que l'élan du sentiment religieux est éprouvé à tous les stades de l'histoire, mais il ne prend pas la même forme selon l'avancement de la civilisation. Donc il y a déjà chez Benjamin Constant une idée de progrès, d'histoire, des religions. Et il écrit l'homme qui marche vers la civilisation s'efforce à la fois de faire descendre jusqu'à lui ce qui est trop élevé et de relever ce qui est trop ignoble. Et c'est ainsi, selon Benjamin Constant, que les formes religieuses évoluent selon la marche de la civilisation. Elles évoluent à partir des premiers fétiches des sauvages jusqu'à des formes plus évoluées de religion. Si les premières formes peuvent paraître repoussantes, les premiers fétiches, et Benjamin reconnaît que les premières formes religieuses sont repoussantes, toutefois, elles n'en témoignent pas moins du même élan de ce sentiment religieux qui est le propre de l'homme. Alors c'est dans cette perspective d'une première approche romantique de la désymbolisation qu'on peut comprendre, je crois, la déclaration de Flaubert dans une lettre à Mademoiselle Leroyer de Chantepie, qui a été citée tout à l'heure par Pierre Marc, mais que je rappelle, une lettre du 30 mars 57. « Je respecte le nègre, baisant son fétiche, autant que le catholique au pied du Sacré-Cœur. » L'appel à un dépassement du symbole, ce qui donnera lieu à une désymbolisation plus radicale que chez Madame de Staël et Benjamin Constant, voit le jour en France grâce à une diffusion d'idées hegéliennes qui donne lieu à des critiques plus ou moins radicales des symboles et des religions, chez Victor Cousin, chez Michelet en particulier, chez d'autres également. L'esthétique de Hegel, que Flaubert a lu, je pense, en 1944, et il a pris des notes, l'esthétique de Hegel trace à grands traits l'histoire d'un dépassement des symboles qui suit un déplacement géographique de l'Orient vers l'Occident. Dans la religion égyptienne, l'idée religieuse est confusément enveloppée, explique Hegel, dans des symboles mystérieux, confus, peu adéquats à la clarté de la pensée qu'ils étouffent complètement. Le sphinx impénétrable est pour Hegel le symbole du symbolisme, et ce sphinx, on le retrouve bien sûr chez Flaubert. Deuxième temps pour Hegel, la Grèce est un moment d'équilibre entre la forme et l'idée, grâce à l'anthropomorphisme des dieux et aux emblèmes, mais la fin de l'histoire, troisième temps, concordera avec un triomphe de la philosophie, un dépassement des symboles et des formes et même de l'art au profit d'une pensée clairement rationnelle. Donc ce sera à la fois la fin de la religion et la fin de l'art. Alors évidemment, on va voir que Flaubert ne peut pas être d'accord avec cette conception-là. Victor Cousin était un lecteur de Hegel, il l'a rencontré également, et en 1828, il donne un cours à la Sorbonne, qu'il publie, un cours d'histoire de la philosophie. Et dans ce cours, bon, il admet d'un côté une certaine valeur des religions. Il estime qu'un culte, quel qu'il soit, représente tout de même les rapports obscurs de l'humanité et du monde à Dieu, sous, dit-il, des formes extérieures, sous de vives images, sous des symboles. C'est-à-dire que par rapport à l'approche spontanée du divin, les religions, les symboles, c'est tout de même un premier progrès. Et bien la religion, elle est plus claire, écrit Cousin, plus claire comme représentation des choses divines qu'une approche intuitive et spontanée. Donc c'est un premier progrès. Toutefois, ce premier stade d'une clarification s'adresse à la foi et ne peut donc pas être le dernier stade. Cousin écrit « En présence du symbole, l'homme, après l'avoir adoré, éprouve le besoin de s'en rendre compte. » Ce second temps est celui, bien sûr, de la réflexion, de ce que Cousin appelle la dialectique, c'est le temps de la philosophie. Et Victor Cousin explique que pour la philosophie, il s'agit de décomposer ce dont on veut se rendre compte, de le transformer en pure conception que l'esprit examine ensuite et sur la vérité ou la fausseté desquelles il prononce. Alors, Cousin comme Hegel établit, on le voit, une hiérarchie en faveur de la philosophie. Le caractère des idées et d'être, dit Cousin, la forme adéquate de la pensée, c'est-à-dire la pensée elle-même se comprenant et se connaissant. Toutefois, Victor Cousin ne va pas jusqu'au bout de la pensée de la désymbolisation. La philosophie, explique Cousin, ne va pas détruire la foi, elle l'éclaire, elle la féconde, elle l'élève doucement du demi-jour du symbole à la grande lumière de la pensée pure. Dans un scénario de la Tentation de 1849, Flaubert avait introduit l'allégorie de la philosophie, qu'il remplace par la suite par la logique, mais en tout cas une logique qui traque les confusions, les contradictions des dogmes. Cependant, loin d'éclairer et de féconder la foi, comme le prétend Victor Cousin, la logique philosophique n'a pas le même objectif. Elle a pour objectif de détruire la foi dans la Tentation de 49. Chez Cousin, la désymbolisation par la philosophie se fait dans le sens d'un spiritualisme philosophique. Dans la Tentation de 49, l'égalisation des croyances, la critique des symboles et leur destruction mettent à nu un fond anthropologique, le désir sous toutes ses formes, le désir sexuel, la pulsion de mort et le désir de savoir également. Donc on n'est pas du tout dans la perspective de Cousin. La question du sens des symboles apparaît chez Flaubert un peu avant le début des recherches pour la tentation, pour la première tentation. Il commence à travailler sur cette première version en 1946. Mais les premières réflexions sur le sens des symboles apparaissent un peu avant, dans l'éducation sentimentale de 1945, que Flaubert termine quelques mois après avoir pris des notes sur l'esthétique de Hegel. Et le personnage de Jules s'interroge sur l'obscurité des symboles, et il reprend après Hegel l'exemple du sphinx. C'est sans doute pour exprimer quelque chose que se taillaient dans les granites ces sphinx monstrueux qui restent couchés sur le sable des déserts. Vers quel horizon regardent, du fond de leur pagode, les yeux béants des idoles? Que signifie leur sourire d'ivresse? Et pourquoi prendre tous ces bras nombreux qui leur pendent le long du corps? On les contemplera longtemps et pas un homme ne saura ce qu'elles veulent dire. Alors, on voit là que si Flaubert se place bien sur le terrain du débat, autour de des débats qui s'élaborent autour de la désymbolisation, sa position est particulière. Personne ne saura ce qu'elles veulent dire, ces formes symboliques. Il n'y aura pas de clarification, pas de conception pure et claire. Le symbole, tel que le conçoit alors Flaubert, résiste complètement à l'entreprise herméneutique ou à l'entreprise historique. Pas de sens, pas de mise en perspective historique, pas de progrès par un dépassement vers la clarté et la philosophie. Tout ce que les formes étranges traduisent, et le mot est de Flaubert dans l'éducation de 1945, sont, je cite encore Flaubert, d'inexplicables élans, d'étranges appétits qui ne se rassasient point, une convoitise de l'infini. Convoitise de l'infini, Flaubert a emprunté cette formule à l'identique, au génie des religions de Quiné, texte de 42. Pour Quiné, c'est une convoitise de l'infini qui fait le dynamisme de l'histoire, la succession des religions, et qui leur donne une valeur. On cherche toujours autre chose, il y a un élan infini, et c'est ainsi qu'on passe d'une religion à une autre, voilà l'idée de Quiné. Mais dans l'éducation sentimentale de 1845, la convoitise de l'infini n'explique pas la succession, mais la complexité et l'obscurité des formes étranges et fantastiques. Je cite encore un passage qui nous montre bien cette éducation. Notre nature nous gêne, on y étouffe. Notre nature nous gêne, on y étouffe. on veut en sortir, et notre âme qui l'a comblé en fait craquer les parois. On se rue à plaisir dans l'effréné, dans le monstrueux. L'homme ne se comprend pas lui-même, son propre esprit lui fait peur, et il s'épouvante de ses rêves. Il se demande pourquoi il a créé des djinns et des vampires, où est-ce qu'il voulait aller sur le dos des griffons, dans quelle fièvre de la chair il a mis des ailes au phallus, et dans quelle heure d'angoisse il a rêvé l'enfer. Alors on voit que l'infini est en fait dans la nature de l'homme, hein, et pas ailleurs. C'est l'infini du désir, on y reviendra. Alors, l'infini flaubertien est donc du côté d'un non-savoir, qui tient à l'excès, à l'implosion même de la nature de l'homme, au débordement. La question du sens des symboles se posera encore bien plus tard, dans la tentation de 1874, et il n'y aura pas davantage de réponse à la question du sens des symboles. Quand j'habitais le temple d'Héliopolis, et là c'est saint Antoine qui parle, j'ai souvent considéré tout ce qu'il y a sur les murailles. Vautours portant des spectres, crocodiles pinçant des lyres, figures d'hommes avec des corps de serpents, femmes à tête de vache prosternées devant des dieux zitiphaliques, et leurs formes surnaturelles m'entraînaient vers d'autres mondes. J'aurais voulu savoir ce que regardent ces yeux tranquilles, mais saint Antoine ne le saura pas. Chez les philosophes et les historiens, la désymbolisation est liée à la question du sens et à partir de Hegel, à la construction du sens dans le mouvement historique. À partir d'une pensée hegélienne, Michelet, en 1837, dans Les origines du droit français, lance probablement l'une des déclarations de guerre les plus radicales qu'on puisse lancer contre les symboles, et cela au nom du progrès. L'idée, écrit Michelet, qu'enferme tout symbole, brûle d'en sortir, de s'épancher, de redevenir infini. Alors vous voyez, chez Flaubert, c'est la nature de l'homme qui est infinie, chez Michelet, c'est pas tout à fait pareil. Michelet considère le droit romain, écrit, comme un moment de progrès, car Rome amenait le droit à la clarté, à l'équité. Et il considère que le droit romain est un moment d'anti-symbolisme. Bon. Alors Michelet donc, n'invente pas le mot désymbolisation, mais parle d'anti-symbolisme, en tout cas c'est la même idée. La position de Michelet est radicale, les symboles et le mode d'adhésion qu'ils suscitent sont aliénants. Les symboles, écrit Michelet, sont de belles et décevantes images et ils dénoncent la tyrannie des formes. L'idée en était opprimée. S'il faut que l'une ou l'autre meure, que l'idée ou que la forme meure, périsse la forme, la beauté même, pour l'affranchissement de l'esprit. Alors ce terme d'affranchissement, on va le voir revenir à plusieurs reprises chez Flaubert. Alors Flaubert n'adhère ni à l'idée hegélienne d'un dépassement de l'art et de la religion par la philosophie, ni à cette idée de Michelet selon laquelle l'idée pourrait s'affranchir de la forme. Tandis que les théories de la désymbolisation favorisent, il faut bien le dire, l'abstraction, l'art, selon Flaubert, s'oppose à cette tendance et à la volonté de savoir qui anime toute pensée de la désymbolisation. Alors que Hegel et Michelet pensent l'affranchissement de l'esprit et vont jusqu'à demander la fin du beau, Flaubert reprend le même parcours de l'Orient vers l'Occident, mais pour imaginer une évolution de l'art vers une forme supérieure et vers un état de l'art qui ferait de la forme l'essentiel. Voilà ce que Flaubert écrit en 52 à Louise Collet. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière. Plus l'expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus et disparaît, plus c'est beau. Je crois que l'avenir de l'art est dans ses voies. Je le vois à mesure qu'il grandit, s'éthérisant tant qu'il peut, depuis les pylônes égyptiens, donc l'Orient, jusqu'aux lancettes gothiques, depuis les poèmes de 20 000 vers des Indiens, vers les jets de Byron. La forme, en devenant habile, s'atténue. Elle quitte toute liturgie, toute règle, toute mesure. Elle abandonne l'épique pour le roman, le vers pour la prose. Elle ne se connaît plus d'orthodoxie et elle est libre, comme chaque volonté qui l'a produite. Cet affranchissement de la matérialité, qui détourne l'affranchissement de l'esprit, il réécrit, c'est tout à fait différent, cet affranchissement de la matérialité se retrouve en tout et les gouvernements l'ont suivi. Bon, affranchissement de la matérialité, mais maintien d'une forme simplement plus habile. On retrouve donc la terminologie de la désymbolisation, le mot affranchissement, mais l'évolution pour Flaubert ne se fait pas au profit de la philosophie, mais au profit de la prose. Le moins de matière n'est pas un vide, ou ce n'est pas l'idée philosophique. Le moins de matière, c'est l'effet d'une sorte de condensation, de stratification. Et dans une autre lettre à Louise Collet, on le voit bien, une lettre du 30 septembre 1953, la prose, art plus immatériel, hein, donc affranchissement de la matérialité, on retrouve l'idée, mais la prose c'est encore de la forme, a besoin d'être bourrée de choses et sans qu'on les aperçoive. Mais en vers, les moindres choses paraissent. Ainsi, la comparaison la plus inaperçue dans une phrase de prose peut fournir tout un sonnet. Il y a, sous-entendu dans la prose, beaucoup de troisième et de quatrième plan en prose. La prose possède donc, on le voit, une puissance d'enveloppement, de stratification, qui permet ce que j'appelais une resymbolisation, par-delà une critique des symboles qui n'est pas absente chez Flaubert. Dans La Tentation de 1974, on a quand même une critique des symboles. Le défilé des dieux est un défilé de formes symboliques en décomposition, commenté par un diable désymbolisé sans cornes et qui s'appelle Hilarion. Diable qui se présente d'ailleurs finalement comme l'allégorie même de la désymbolisation lorsqu'il déclare, donc c'est Hilarion qui parle, « Je vais toujours, affranchissant l'esprit et pesant les mondes, sans haine, sans peur, sans pitié, sans amour et sans Dieu, on m'appelle la science. » Et au XIXe siècle, chez Flaubert en particulier, dans la correspondance, il y a souvent un passage du mot philosophie au mot science, hein, il y a parfois une proximité. Et en effet, pendant le défilé, Hilarion a bien tenu des propos des symbolisateurs. Ces dieux, dit-il à Saint-Antoine, sous leur forme criminelle, peuvent contenir la vérité. Mais le problème, c'est qu'Hilarion ne dira jamais de quelle vérité il s'agit, justement. Donc cette vérité ne sera pas élucidée dans la Tentation de 1974. Et la désymbolisation est traitée dans un registre grotesque. Junon, par exemple, fait remarquer à Jupiter qu'il a perdu tous ses cheveux à force de se rouler sur tous les lits, faisant allusion à ses amours. Minerve, le cas est encore plus intéressant, Minerve, qui est généralement la déesse de la raison, n'a plus une seule idée et elle tombe à la renverse, frappée au front, et de sa forme brisée ne se dégage aucune vérité. De plus, le comparatisme utilisé par Hilarion travaille en définitive contre la désymbolisation, car il abolit l'idée d'un progrès. Et la désymbolisation est vraiment liée à l'idée de progrès. Hilarion explique à Saint-Antoine, « Tu trouveras la Trinité dans les mystères de Samothrace, le baptême chez Isis, la rédemption chez Mitra, le martyr d'un dieu aux fêtes de Bacchus, Proserpine et la Vierge. » Le christianisme, par conséquent, est présenté comme une accumulation de symboles antérieurs empruntés au passé. Une religion n'est donc jamais que la récapitulation de symboles antérieurs qui ajoute une strate symbolique de plus à l'histoire des religions. La tentation prend bien donc place dans un débat, qui est le débat de son époque, sur la désymbolisation. Mais Flaubert n'en adopte pas les conclusions. L'œuvre ne se termine d'ailleurs pas par un discours, mais sur une vision et une image, dont il a déjà été un petit peu question la semaine dernière, la naissance de la vie, sous la forme de têtes d'épingle garnies de cils, qui reproduisent dans l'infiniment petit le soleil avec ses rayons, soleil au centre duquel apparaît la face du Christ. Alors, c'est une image qui termine la tentation, et de surcroît, cette image est intéressante parce qu'elle est extrêmement ambiguë. En effet, la lumière solaire est une image traditionnelle, d'un côté, c'est une image traditionnelle de la vérité philosophique, et cela depuis Platon. Et donc, la lumière solaire pourrait bien être l'emblème de la désymbolisation. De plus, dans un contexte de désacralisation matérialiste des religions, le livre célèbre de Charles Dupuis sur l'origine de tous les cultes a largement diffusé l'idée selon laquelle les dieux principaux des religions n'étaient que des figurations symboliques de l'astre solaire. Donc l'image qui apparaît du soleil à la fin de la tentation peut condenser toutes ces idées-là, plutôt donc, disons, du côté de la désymbolisation. Oui, mais ce soleil flaubertien est toutefois mis en scène grâce à une imagerie chrétienne et baroque, c'est-à-dire mise en scène grâce à des formes qui sont liées à un moment de l'histoire de l'art, le baroque, la contre-réforme, qui s'est nettement affirmé comme un temps fort de la resymbolisation chrétienne. De plus, on va le voir, dans le texte flaubertien qui termine la tentation, c'est la métaphore, instrument d'une mise en image du sens, qui joue un rôle dans le mouvement de resymbolisation. Voilà le passage donc, de l'apparition du soleil à la fin de la tentation. Comme les rideaux d'un tabernacle qu'on relève, des nuages d'or en s'enroulant à large volute découvrent le ciel, volute caractéristique de l'art baroque, tout au milieu, dans le disque même du soleil, rayonne la face de Jésus-Christ, qui est un symbole religieux traditionnel du christianisme. Donc vous voyez, cette image, elle est vraiment très ambiguë. Autre caractéristique, la resymbolisation flaubertienne fait un usage des savoirs scientifiques. Je ne m'attarderai pas sur ce point parce que j'ai montré ailleurs que la resymbolisation de la vie sous la forme de mini-soleil, hein, les têtes d'épingle avec les cils, mini-soleil, condense en fait toute une série de théories scientifiques différentes, la monnaie desquelles, les découvertes récentes sur la cellule. Et le savoir, ou les savoirs plutôt au pluriel, sont donc détournés à des fins esthétiques. Flaubert y cherche d'une part des éléments dotés d'une force plastique et d'autre part des éléments faciles à combiner et qui lui permettent surtout de construire une image ambiguë. En effet, au processus de désymbolisation dont le mouvement est un développement, un dégagement, un affranchissement au profit des idées philosophiques, Flaubert, lui, préfère le syncrétisme, c'est-à-dire la fusion, le mélange, le réenveloppement, la condensation des symboles et des savoirs. La désymbolisation est, je crois, trop compromise avec l'idée de progrès pour que Flaubert puisse y adhérer, et trop compromise aussi avec une foi en l'humanité qui faisait dire à Michelet dans Les origines du droit français « humain, c'est-à-dire non divin, sans mystère, sans formule ni symbole ». Alors, rien d'étonnant donc à ce qu'un roman comme Salambo soit à la fois un roman sur l'inhumanité et un roman de la resymbolisation qui réintroduit le mystère dans l'humain. Flaubert explore dans Salambo le mystère du désir qui s'allie à la haine et à la violence. Il explore les profondeurs d'un désir qui tue. Flaubert rédige Salammbô à une époque, 57-62, où le savoir médical a déjà largement désacralisé les phénomènes religieux. Et Flaubert connaît en particulier, parmi bien d'autres travaux, ceux d'Alfred Maury, qui est un historien des religions, mais qui a publié des textes sur les hallucinations religieuses, par ailleurs, et qui a réfléchi sur l'origine pathologique de ces hallucinations religieuses, qui a réfléchi sur les stigmates, sur un phénomène qu'on appellerait maintenant la somatisation. Mais il n'emploie pas le terme. S'appuyant aussi sur le traité du docteur Landuzzi sur l'hystérie, bien avant Freud, Flaubert va expliciter dans Salammbô, en termes médicaux d'abord dans les scénarios, la nature hystérique du mysticisme de Salammbô et l'étiologie sexuelle de cette hystérie. Et ce que l'on voit bien dans les scénarios, c'est le refoulement du désir. Toutefois, du manuscrit au texte publié, la vérité médicale se reformule en termes symboliques. Dans le premier scénario, le festin était une orgie et les deux personnages devaient éprouver très clairement le désir, je cite Flaubert, de se baiser. Dans le second scénario, le désir sexuel provient chez la jeune fille d'une curiosité de la femme civilisée pour le barbare, et Flaubert indique surtout qu'elle ne s'en rend pas compte. Voilà, donc inconscient, refoulement. Et puis surtout, cette indication, elle ne s'en rend pas compte, programme l'effacement et une réécriture du désir inconscient en termes symboliques et religieux. La fille d'Amilcar reçoit son nom définitif, Salammbô, tardivement, dans le sixième scénario général. Et dans le dernier scénario général, Flaubert indique alors, influence du nom de Salammbô, égale Astarté, parce qu'effectivement Salammbô est l'un des noms d'Astarté, de même que Tanit d'ailleurs. Donc influence du nom de Salammbô sur le caractère de Salammbô, Astarté pleure Adonis, un deuil immense pèse sur elle, elle cherche, Salammbô a un amour vague et funèbre. Dans l'origine de tous les cultes de Charles Dupuis, Flaubert a relevé et noté un renseignement sur le symbolisme astral qui lui permettra d'expliquer le fatalisme du désir. Il note, donc à partir de Charles Dupuis, « La lune tourne continuellement autour du soleil comme pour se joindre à la source de toute fertilité. » Et bien à partir de là, l'explication trop médicale des scénarios, l'hystérie de Salammbô, est réécrite en termes métaphoriques et religieux. La première apparition de la fille d'Amilcar, c'est les deux premiers exemples, je n'aurai pas le temps les lire, parce qu'il faut que j'accélère. Donc cette première apparition de la fille d'Amilcar est placée sous le signe de Vénus Astarté. Elle descend de sa terrasse au milieu de la double rangée de cyprès. Or Flaubert a lu le livre de Félix Lajar, Recherche sur le culte du cyprès pyramidal chez les peuples civilisés de l'Antiquité. Et le cyprès est lié à Vénus Astarté. Donc vous voyez, elle ne descend pas dans n'importe quelle allée. La comparaison de la bouche de Salammbô à une grenade, exemple 2, renvoie aussi à Astarté. En effet, il s'agit d'un symbole punique de la fécondité, souvent représenté sur les pièces de monnaie. Ce fruit était par ailleurs aussi souvent associé à la Vierge dans les représentations picturales, mais avec un tout autre sens, plutôt la virginité. Donc, la grenade qu'on voit apparaître dans la description de Salammbô, par une comparaison, la grenade devient dans la fiction flaubertienne le symbole bipolaire d'une chasteté ambivalente. Vierge ou Astarté, ce n'est pas du tout pareil. Le second glissement analogique, les pierres précieuses sur sa poitrine, sur la poitrine de Salammbô, imitent, par les bigarrures, les écailles d'une murène. Ce second glissement analogique noue un rapport double entre Salammbô et les poissons, hein, les écailles, d'une part, donc avec les poissons, et d'autre part avec le serpent, la murène. Or, dans le traité sur la déesse de Syrie de Lucien de Samosate, Flaubert a trouvé des renseignements sur le culte et la forme de la déesse poisson d'Erceto. Sur un folio de notes, il indique l'assimilation de Tanit avec cette autre déesse de la fécondité, d'Erceto, corps de poisson, pied et face humaine. Dans la prière de Salammbô à Tanit au chapitre 3, d'Erceto sera associé à Tanit Astarté, la déesse de l'amour. L'analogie avec la murène lie aussi Salammbô au serpent. Et Flaubert savait, pour avoir lu un autre livre de Félix Lajard, Recherche sur le culte, les symboles, les attributs et les monuments figurés de Vénus en Orient et en Occident, que dans l'Antiquité, le serpent était l'emblème des divinités qui présidaient à la fois à la création et à la reproduction. Et bien avant d'aller rejoindre Matos ou sa tante, suivant les instructions de Jabarim, qui en sait long sur les prostitutions sacrées, Salammbô danse enlacée érotiquement à son serpent. Et la scène est une préparation de ce qui se jouera sous la tente. Autre symbole bipolaire, le serpent est pour un lecteur moins érudit lié à la femme fatale et à la mort. La description de Salammbô dans le premier chapitre est suivie par un récit entremêlé de style indirect libre qui introduit de manière ambiguë dans le discours narratif une parole légendaire. Personne encore ne la connaissait, Salammbô. On savait seulement qu'elle vivait retirée dans des pratiques pieuses. Des soldats l'avaient aperçue la nuit sur le haut de son palais, à genoux devant les étoiles, entre les tourbillons, des cassolettes allumées. C'était la lune qui l'avait rendue si pâle et quelque chose des dieux l'enveloppait comme une vapeur subtile. Discours indirect, et le discours narratif se confond là avec la croyance carthaginoise. L'histoire de la fille d'Amilcar est inscrite dans la description initiale du premier chapitre qui transforme la jeune fille en figure légendaire. Dans le chapitre intitulé Salammbô, elle apparaîtra comme une forme blanche et la vision du bas en haut s'arrête sur un détail, ses sandales à pointes recourbées disparaissaient sous un amas d'émeraudes et ses cheveux à l'abandon emplissaient un réseau en fil pourpre, les sandales à pointes recourbées. Dans un folio du dossier Sources et méthodes, Flaubert indique « J'ai prodigué les émeraudes parce qu'elles passaient pour conserver la chasteté. » Donc elle a des sandales recourbées qui disparaissent sous un amas d'émeraudes. Donc, symbole de la chasteté. Quant aux sandales elles-mêmes, elles rappellent cette rêverie de 1853 dans la correspondance. Quel beau mot que sandales! Et comme il est impressionnant, n'est-ce pas? Celles qui ont des bouts retroussés en pointe comme des croissants de lune et qui sont couvertes de paillettes étincelantes, tout écrasées d'ornements magnifiques, ressemblent à des poèmes indiens. Alors, dans le dernier chapitre, Flaubert écrit à propos de l'héroïne Salammbô se confondait avec Tanit. Or, on sait que Tanit est une divinité lunaire. La comparaison explicite dans la lettre des sandales recourbées avec la lune ne passe pas dans le texte de Salammbô, mais les sandales ont encore une forme qui évoque le croissant lunaire, le symbolisme lunaire lié à Tanit. Dans le dénouement du roman, le corps de Salammbô est à nouveau occulté par un amoncellement d'accessoires, pendeloques, escarboucles, plumes de paon, qui font de la jeune femme une idole. Je n'aurai pas le temps de lire ce passage, mais c'est l'exemple numéro 5. Donc j'ai juste le temps de conclure. L'histoire de Salammbô est une histoire de désir, je dirais, qui tourne mal. C'est l'histoire d'une négation du corps réel. Salammbô est tuée par la croyance des autres qui veulent la voir comme une divinité, comme Tanit. Elle est tuée par son devenir divin aux yeux des autres. Elle est tuée par le déni du désir amoureux. Salambo meurt pour avoir accepté de se soumettre à l'idéalisation. Elle meurt pour avoir accepté d'être Tanit, en quelque sorte, et pour ne pas avoir entendu ce que lui disait à la fois son propre corps sur le désir et ce que lui disait aussi l'espace même de son apparition, dominé par le cyprès de Vénus. Le corps de Salambo est évoqué plus que montré, et le symbolisme entraîne le lecteur vers une multitude de représentations et d'images symboliques. Flaubert invente aussi dans ce roman un discours narratif, on l'a vu, qui imite le discours légendaire. Je pourrais en donner encore un exemple si j'avais le temps, mais enfin vous connaissez bien la conclusion. Ainsi mourut la fille d'Amilcar pour avoir touché au manteau de Tanit. Le travail de Flaubert, des manuscrits au texte, consiste à faire disparaître la frontière entre le discours du narrateur et les discours carthaginois de la croyance. Le désir sexuel est donc formulé avec les symboles d'une croyance antique imaginée par Flaubert. Salambo est habité par le feu de Moloch et tous les symptômes décrits par le docteur Landouzi sont retraduits en termes mythiques. Le symptôme des vapeurs chez Landouzi se transforme en feu de Moloch grâce à une comparaison. Il s'exhale du fond de mon être comme de chaudes bouffées plus lourdes que les vapeurs d'un volcan, et apparaît donc le feu du volcan lié à Moloch. Quant à la boule de l'hystérie, c'est une boule de feu également. Des voix m'appellent, un globe de feu roule et monte dans ma poitrine, il m'étouffe, je vais mourir. Et puis quelque chose de suave coulant de mon front jusqu'à mes pieds passe dans ma chair, c'est une caresse qui m'enveloppe et je me sens écrasée comme si un dieu s'étendait sur moi. Alors je conclus tout à fait grâce à cette comparaison au processus métaphorique. Je ne sais pas si Flaubert a lu Max Müller, qui n'est cité nulle part. Mais en tout cas, Max Müller publie en 59, pendant que Flaubert travaille sur Salambo, Renan publie une traduction de l'essai sur la mythologie comparée de Max Müller en 59. Or, Flaubert entre en relation avec Renan dans cette période-là grâce à la rédaction de Salambo. Je ne sais pas donc si Flaubert a lu le texte. Quoi qu'il en soit, Flaubert, on vient de le voir, utilise le processus métaphorique pour dire le sentiment d'oppression de Salambo. Puis, dans la scène sous la tente, Salambo oublie le « comme si un dieu s'étendait sur moi » et elle croit vraiment faire l'amour avec Moloch. C'est-à-dire que de la métaphore, on est passé à la croyance et elle s'écrit « Moloch, tu me brûles ». Eh bien, dans son essai de mythologie comparée, Max Müller explique que les hommes de l'Antiquité ne savaient pas parler une langue abstraite et pour rendre compte des phénomènes naturels, ils parlaient par métaphore, puis ils finirent par oublier l'origine métaphorique de leurs images et c'est là que les religions sont apparues. Eh bien, je dirais que dans Salambo, Flaubert resymbolise par les métaphores et aussi par la métonymie. Dans la conclusion, ainsi mourut la fille d'Amilcar pour avoir touché le manteau de Tanit, c'est surtout pour avoir touché ce qui était sous le manteau, le corps de Mato, le manteau était tombé sur les deux amants. Flaubert stratifie donc ainsi les significations possibles, il y a beaucoup de troisième et de quatrième plan en prose, disait-il. Le langage flaubertien retrouve une opacité, mais qui n'est pas celle du symbole religieux obscur, archaïque et aliénant, qui était critiqué par Hegel et les défenseurs de la symbolisation. La resymbolisation artistique crée chez Flaubert un effet d'infini par contraste avec la clôture des discours. La désymbolisation était liée à une pensée du devenir, à la dialectique. L'infini flaubertien n'est pas du côté de la désymbolisation, du déploiement vers la pensée rationnelle. La resymbolisation est inséparable de la forme, évidemment, du renouvellement des formes. Il est du côté du déploiement sans fin, mais du déploiement de la vie, d'une puissance plastique qui n'en finit pas de faire renaître des représentations, même lorsqu'on croit que c'est fini, comme à la fin de la tentation. Dans Salammbô, le savoir médical et l'érudition archéologique, l'érudition religieuse, alimentent la réinvention d'un légendaire, et celui-ci permet de représenter le mystère du désir et les profondeurs du psychisme qu'aucun savoir médical n'avait encore réussi à formaliser, à théoriser, malgré les intuitions dispersées des travaux médicaux de l'époque.
Merci beaucoup de ce parcours. Et on va tout de suite passer à la discussion. Je pense qu'il y a des points de débat entre Gisèle et peut-être Pierre-Marc, parce qu'on avait construit cette séance comme une sorte de dialogue entre vos deux exposés. Je ne sais pas si tu peux prendre la parole ou d'autres avant.
Oui, d'abord, pour être bien, je pense que son exposé, ce qui est très juste, je crois, par rapport à la manière dont informé par toutes ces lectures, et puis appris, à mon avis, tout à fait personnel là-dessus. Dans le cadre de l'exercice de la désamorisation, peut-être que j'avais essayé de définir la thèse, il semble qu'il y a des cas assez diversifiés, complexes. Foubert utilise délibérément les techniques, comme technique narrative, des cas analysés par Maury, par exemple, d'évolution des légendes pieuses, pour faire de l'écriture. Et à ce moment-là, observer par exemple un cas de désymbolisation à l'envers. Un des cas que j'aurais pu commenter là tout à l'heure si j'en avais eu le temps, et qui est assez amusant, c'est dans la légende de Saint-Julien, tellement nombreux dans la deuxième partie, Julien est à la porte du château des enfants, il devient petit à petit un héros, un commandant militaire, et alors il fait vivre tout un tas de succès, et le texte, des républiques ont barrage consultaire, aux entrevues ambassadeurs peuvent donner des conditions inespérées. Si un monarque se conduisait trop mal, il arrivait tout à coup, il faisait des repentances. Il affranchit les peuples, il délivra des raids enfermés dans des tours. C'est lui, il n'est pas un autre, qui assomma la guivre de Milan et le dragon d'Auvergne Noire. Alors, cette phrase, c'est lui, il n'est pas un autre, qui assomma la guivre de Milan et le dragon d'Auvergne Noire, évidemment, une plaisanterie de Flaubert. C'est une plaisanterie qui est instruite par tout un texte de Maury sur les scènes, sur les gens plus médiales, qui a été écrit en 1943, et où Maury dit, ben voilà, en fait, l'origine des légendes, c'est souvent qu'au départ, il y avait un symbole héraldique. Par exemple, et là, c'était dans le cadre de des symboles héraldiques, par exemple, Milan, représenté par la guivre, et sur le tombeau des familles Copernicus, et que petit à petit, on a oublié l'origine héraldique de la représentation, et on en a fait de vrais guivres. Alors, ce qui est assez mouvant, je trouve, dans la façon dont Flaubert traite la chose, c'est que c'est un des moments où, dans le texte, il restitue de l'oral. C'est lui, il n'est pas un autre. Non, on sent le conteur qui assomma la guivre de Milan et le dragon de Ravirva. C'est-à-dire que la foi de celui qui porte le récit produit cette désymbolisation en inverse. C'est à prendre pour de bon, pour de vrai dragon, de vrai guivre, quelque chose qui n'était avant bien une forme logique.
Gisèle,
oui, c'est tout à fait juste. Hein, tout à fait.
Moi, j'étais très intéressée par le parcours historique que tu as fait, et puis par l'interprétation. Pour ce qui est de Max Müller, on en a parlé au dernier séminaire, il me semble qu'il y a des traces de lecture, dans les carnets, il y a des citations de Max Müller, et pour le second volume de Bouvard et Pécuchet. Et Max Müller, il a dû en entendre parler, je crois que c'est ce que je disais la séance précédente, par Renan, par tous ses amis qui étaient. Pour revenir à ce que tu disais sur la désymbolisation, ça m'a bien intéressé, en particulier le rapport entre la critique de la désymbolisation et la critique du progrès. Mais après, tu donnais des exemples. Je me demande si, par exemple, dans la Tentation, tu évoquais le baroque comme pour la représentation du soleil. Est-ce qu'on peut passer aussi vite de la notion de baroque comme une sorte de prédicat esthétique, c'est une représentation baroque, à la signification religieuse qu'a représenté le mouvement du baroque au XVIIe ? Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que la Tentation se termine vraiment par des images, et par des images qui renvoient même à une histoire de l'art, avec les volutes, par un symbolisme religieux chrétien, et donc se termine vraiment sur du symbolique, sur de l'image et sur du symbolique.
Oui, c'est tout.
Alors pour ce qui est de Max Müller, oui, le carnet, moi la question que je me posais, c'est à quel moment, et là je crois qu'on n'a pas la réponse, à quel moment il a lu, parce que ce qui m'a frappé effectivement dans Salambeau, c'est ce processus de métaphorisation qui fait réapparaître du religieux et qui resymbolise. Et juste en 59, Renan traduit ce livre-là, donc je me suis demandé, mais je n'ai pas trouvé dans les... dans la correspondance, de toute façon, il n'y a pas de citation de Max Müller, et dans les manuscrits de Salambeau, pour le moment, je n'ai rien trouvé qui puisse confirmer.
Mais il semble que ce soit lié à Bouvard, que ce soit plutôt lié au travail de Bouvard.
Voilà. La question, c'est quand l'a-t-il lu exactement, ou quand en a-t-il entendu parler ?
C'est vrai. Nous, on fait garder Salambeau. On n'a qu'un seul garder. Salambeau, et voici quoi le nom.
Et quand tout sera transcrit, enfin tous les brouillons de Salambeau seront transcrits, peut-être trouvera-t-on un indice.
Ceci étant, symbolisation, présence du symbole, oui, ceci n'implique pas qu'il y ait une signification, je veux dire un symbole. Il y a un travail quand même chez Flaubert de l'énigme et de la... Il me semble que les travaux récents ont montré la façon dont les différents enjeux symboliques travaillent les uns contre les autres pour créer une énigme interprétative.
C'est bien cela que je disais en parlant du soleil, qui peut aussi bien être, et ça je trouve que c'est quand même assez fort, qui peut être à la fois une image de désymbolisation, et philosophique, en même temps, symbole religieux.
Bien sûr, voilà.
Donc c'est vraiment une image extrêmement ambiguë. Donc la resymbolisation flaubertienne, en effet, on nous disait, elle va dans le sens de l'opacification, de la stratification, de l'empilement des significations, de l'ambiguïté, de l'indécidable.
Non, mais c'est plus clair.
Pas du tout de la clarification.
Voilà.
Des symbolisations, c'est effectivement une clarification. Il faut sortir les idées philosophiques qui sont enveloppées, obscurcies. Il faut rationaliser. Et la resymbolisation flaubertienne, oui, elle va tout à fait contre ça.
Absolument.
Le mot symbole, comme l'a dit Pierre-Marc de Biasi, est ambigu. On n'a pas donné toujours le même sens à ce mot. Et il y a un débat au XIXe sur le sens du mot symbole, qu'on oppose parfois au mot allégorie. Dans le premier romantisme allemand, d'ailleurs, c'est la tendance, il me semble, dominante. Le symbole, il est complexe, il est polysémique, etc. Alors que l'allégorie, justement, elle est davantage du côté de la clarté, de la raison.
Pierre-Marc ?
Je crois que si tient. Enfin, c'est une question probablement radicale et centrale. Le symbole dans la théorie appartient au monde des images. Il détient un coefficient visuel fort. Nous ramène aussi à l'émergence du modernisme, c'est-à-dire à ce moment où Flaubert, en tant que les peintres, interroge les frontières de l'image effectuée de manière systématique, en tout cas. Mais je voulais te demander, comment tu utilisais le premier exemple là, de ton. Sur le palais, etc.
Sur. Sur le. Alors, elle descend au milieu de. Est-ce que j'ai mis un exemple de trop? Non, celui-ci, je crois que je ne l'ai. Non, je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas utilisé. Non.
Tu ne veux pas t'en tirer comme ça.
Non, parce que ça m'amuse, parce que c'est dans un texte qui s'appelait Fiat Lux sur la lumière. J'avais fait une analyse de ce passage et de la manière dont c'était écrit. Et peut-être qu'il y a une espèce de désymbolisation ironique, parce qu'il y a ça aussi, ce qui n'est pas trop facile à repérer, mais c'est souvent c'est le passage par la blague. Quand on lit le palais s'éclaira tout d'un coup, d'un seul coup, à sa plus haute terrasse, la porte du milieu s'ouvrit et une femme, la fille Erika, couverte de ses vêtements noirs, apparut sur le seuil. Bon, ça, c'est l'apparition de Salambo. Nous, on lit ça, ça ne fait pas un gros effet quand même. Pourquoi? Parce que on sait la lumière tout d'un coup, il suffit d'appuyer sur le bouton. Hein, on sait faire ça. À l'époque où s'écrit ce texte, un palais qui s'éclaire tout d'un coup, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si vous regardez
l'éclairage
de la Rousse, vous avez un 1865, vous avez la première mention, c'est il faut 2 heures pour éclairer un palais. Parce qu'il faut aller de pièce en pièce, à tout le monde, etc. Autrement dit, la désymbolisation ici, elle est en fait un jeu avec des expériences qui ont été tentées depuis le début de la fin du 18e siècle, l'éclairage au phosphore. Est-ce qu'on ne peut pas éclairer une maison tout d'un coup au phosphore en temps? Mais c'était une espèce de gageure, de folie. Les gens rêvaient que ça, d'un moment où tout d'un coup toute la maison s'éclairerait d'un coup. Alors, c'est une blague en fait de Flaubert. C'est tellement magique que le palais de Salambo, il y a tellement de serviteurs qui sont tous arrivés au même moment, partout. Quoi.
Comte l'interprétait de la façon suivante, c'est en effet, bon, féerique, magique, c'est religieux, c'est une apparition religieuse, et alors ensuite elle descend vers les hommes, cette apparition, mais elle reste toujours hiératique, couverte de bijoux, donc c'est dans ce passage aussi, où là je l'ai cité, on a ce discours indirect de la croyance, on ne l'avait pas vu, mais enfin il y avait des légendes qui couraient sur elle. Donc voilà, et puis je comptais l'utiliser parce qu'il est déjà question des vêtements noirs, mais je n'ai pas eu le temps de parler des couleurs et du symbolisme des couleurs, du noir, du rouge, lié à Tanit Moloch.
Mais là, voilà. C'est une illustration de la superposition des couches.
On voit bien ce travail de superposition des couches et d'empilement des symboles. Il en prend un petit peu à la Jarre, un petit peu à Dupuis, et puis il condense tout ça et resymbolise très fortement.
En parlant de blagues,
Agnès Bouvier.
Un cas de blague qui m'a toujours amusé dans sa vidéo, de désymbolisation et de symbolisation très très violente et amusante, c'est le moment où Mato va livrer sa dernière bataille. Et où, je ne me souviens plus de la formulation exacte, mais il remplaça son armure et mit sa peau de lion parce qu'elle était plus commode. C'est-à-dire que là, il y a une effraction du symbole, évidemment, de
Hercule.
Et qu'il est à la fois, et dans la même phrase, détour comme ça, à la fois qui vole en éclat et qui est remis en acte, puisqu'il va effectivement. Se battre en Hercule dans cette bataille de conflagration, des symbolisations, resymbolisations express.
Sous sous la tente aussi, lorsque Salammbô s'empare d'une épée pour se transformer en Judith décapitant Holoferne, et puis elle s'arrête, ne passe pas à l'acte.
Du style, non, je me suis trompée de mythe.
Exactement.
D'autres...
Il y a une forme, précisément, de syncrétisme qui est quand même très, très souvent utilisée dans ces procédures-là. C'est trompé de mythe parce que, oui, je crois que c'est vraiment le cas. Par exemple, dans Saint-Julien, il y a le passage fameux où, dans la première partie, ayant beaucoup vieilli, Néros, à un certain moment, je pense à se tuer. Puis il s'approche d'une fontaine et voit l'image de son père dans la fontaine, et à partir de ce moment-là décide de renoncer au suicide pour ne pas tuer le deuxième à son père. En fait, c'est combinatoire de Judith et de Narcisse qui est très délibérément fabriqué comme ça dans les bouillons, où Flaubert en compilant les deux mythes et en les cassant, en les rendant à la fois solidaires et bien compatibles, mais pourtant présents dans la même image, Flaubert se sert du syncrétisme pour empêcher de conclure. On n'est pas dans une logique de Pierre, on n'est pas dans une logique de Narcisse non plus. On est dans l'impossible lien des deux. Et le syncrétisme est une des formes décisives de la symbolisation, soit qu'il soit la géographie des gens, soit qu'il soit mythique. Et quand il est mythique, il nous frappe énormément parce qu'il se rapproche à 20 ans, 30 ans près de ce que Freud va en faire quelques années plus tard, parce qu'il touche les mêmes questions, comme tu l'as dit.
Le mot inconscient, l'adverbe inconsciemment, apparaissent chez Alfred Maury, mais bon, après la publication de Salammbô, dans Le sommeil et les rêves, qui est un livre qui a été plusieurs fois cité par Freud.
Oui, c'est un livre important pour le 19e aussi. Bon. Pas d'autres. Eh bien, écoutez, nous allons continuer à travailler cette question la semaine prochaine, à la prochaine séance, puisque nous aurons deux exposés, celui de Michel Espagne sur mythes et symboles en Allemagne, donc on va reparler de Max Müller, et Ildikó Lorinczky, évolution des études mythographiques de Dupuis à Max Müller. Et je remercie les deux intervenants aujourd'hui, Gisèle Séginger et Pierre-Marc de Biasi, c'était vraiment passionnant, et merci à vous d'être venus ce samedi matin, et donc à samedi prochain, dernier séminaire de l'année.